Arnaud Boutéon, bonjour.
Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais vous parler ce matin d'une heureuse ascèse. Le titre de mes émissions, c'est Athlète du Christ. Et vous savez que le mot ascèse et le mot athlète partagent la même racine. Toutes les personnes qui veulent suivre un chemin d'ascèse, un chemin de renoncement, sont des athlètes. Ils sont athlètes sans le savoir, ils sont sportifs et donc ils ont le droit d'écouter cette émission. Et puis en même temps, on va parler de joie, mais je vais surtout aussi vous parler de combat parce que j'aime beaucoup parler de cette heureuse adversité. Et quand on pense à tous les grands moments de joie profonde, de jubilation qui ont pu traverser nos existences, ces moments un peu de fierté personnelle parce qu'on sait qu'on a accompli quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de profondément joyeux. Eh bien, quand on y réfléchit, ces moments de profonde satisfaction, d'action de grâce, de louange, succèdent à des moments de souffrance, d'ascèse, de renoncement. C'est le cas des retrouvailles, c'est le cas de la victoire d'un sportif qui, après un effort dans les ultimes minutes, arrive par exemple à franchir la défense adverse au rugby. C'est le cas du succès à un examen. Plus le travail d'ascèse, plus le travail de difficulté où on rame un peu dans l'obscurité, dans la solitude, plus ce travail a été difficile, pénible, plus finalement cette délivrance, cette joie ensuite, au moment où on pose ce geste juste, sera puissante et forte. Et donc c'est un peu de ça que je vais vous parler ce matin. Et puis je vais commencer mon propos par une citation. Vous savez que je suis engagé dans cette confrérie des hommes des chevaliers de Colomb et grande confrérie de charité, de fraternité entre les hommes qui sont heureux dans le service. Et puis aux États-Unis, ils ont une relation au sport qui n'est pas la même que chez nous parce que cet esprit de conquête, de combat, peut-être insuffle davantage les églises chrétiennes, catholiques, évangéliques, etc., que dans la société européenne où peut-être avons-nous plus de difficultés avec le corps, peut-être avons-nous plus de difficultés avec une dimension peut-être moins conceptuelle, plus simple qu'on l'on retrouve dans l'exercice sportif. Et il y avait un grand entraîneur de football américain qui s'appelle Vince Lombardi. Il était membre de cette confrérie des chevaliers de Colomb. Il parlait de sa foi, c'était une forme de Didier Deschamps dans le football américain, et il disait la chose suivante, il disait: je suis persuadé que le plus beau moment de chaque homme et sa plus grande gloire est celui où il a tout donné de lui-même pour une bonne cause et qu'il est étendu, épuisé mais victorieux sur le champ de bataille. Alors ce moment où on a cette satisfaction profonde d'avoir tout donné, ce moment où on est étendu, ça peut être évidemment ce dernier souffle, ça va être l'attente de ce repos éternel, mais c'est aussi plein de petits combats dans nos vies. Et puis le premier combat, c'est quand même ce combat de la louange, et je vais commencer cette intervention ce matin par vous faire écouter un petit chant de louange, béni soit ton nom, parce qu'on voit à quel point on a du mal parfois à rentrer dans la louange. C'est déjà un petit combat d'ascèse. Et quand on plonge dans cette louange, quand on reconnaît nos faiblesses pour admirer la force et la puissance du Seigneur Créateur, eh bien, on en sort raffermi, on en sort un peu plus vigoureux et vaillant pour attaquer nos journées. Donc, pendant 3 petites minutes, on va se laisser emporter par ce chant de louange, béni soit ton nom, et puis on se retrouve juste après pour plonger dans le vif du sujet et du combat. Nous voici, Seigneur, devant toi, dans ta majesté, et pour commencer, voilà, sur cette méditation ce matin, il y a une vieille phrase de Kierkegaard qui dit: ce n'est pas ce n'est pas la vie qui est difficile, mais le difficile qui est la vie. Et dans mon petit travail d'entraîneur auprès de mes enfants, je leur dis souvent, vous voyez, c'est comme sur un hippodrome où il y a une course de haies. Souvent, toute la société un peu chloroformée, un peu doucereuse, très publicitaire, voudrait un peu gommer toutes les difficultés. On est encore plus avec les réseaux sociaux sur quelque chose de beaucoup plus lisse. Et je leur dis: mais vous êtes comme un cheval sur un champ de course, et dites-vous qu'il y aura des haies à sauter. il y aura toujours des haies à sauter. Et donc, le fait le matin, dans sa prière, de se dire, ben, Seigneur, quelle sera la haie que je vais sauter? Quel est l'obstacle à franchir? Ça nous permet de le préparer, de l'anticiper et de l'affronter avec encore plus de paix, de sérénité et moins de surprises. Un joueur doit toujours, dans son exercice physique, doit toujours jouer détendu. On se souvient d'Aimé Jacquet qui disait à propos d'un joueur, il faut que tu muscles ton jeu, tu es beaucoup trop crispé, il était trop tendu. Et les plus beaux gestes, vous savez que dans la définition du sport, hein, Jean-Paul II disait vraiment, la finalité du sport, c'est cette recherche du beau geste. Eh bien, les plus beaux gestes se font quand on joue relâché. Et ce relâchement, il vient d'où? Ben, il vient d'une paix intérieure. Il vient de la conscience que nous sommes forts, la conscience de notre force, pour nous donner aux autres, la conscience que nous maîtrisons techniquement cette discipline, et puis la virtuosité. Vous savez, la virtuosité, c'est ce mélange finalement de technique et de vitesse. Il y aura énormément de travail, de travail, de travail, et c'est le moment où le génie va pouvoir éclore, où notre identité va pouvoir se révéler. On ne fera pas juste du copier-coller de techniques sportives éprouvées, on trouve ça dans la musique aussi, mais il y a un moment donné où ça sera notre identité qui sera face à notre art, et le sport dans sa gestuelle est une forme d'art. Et ça suppose beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'assaise. Et donc un combat intérieur, c'est un combat intérieur qui commence, comme nous pendant ce carême, par des petits efforts de volonté. Et le premier combat pour nous tous le matin, il commence par s'extraire de son sommeil et puis se dire ben, « j'affronte le réel du quotidien ». Je quitte un peu ce mot de pause de la nuit, la chaleur ouatée, on est très bien sous la couette, pour affronter la vraie vie, le réel. Et puis souvent, quand on est en ville, en mode un peu accéléré. Et on voudrait, parce qu'on a traversé par des doutes, un peu fuir ce monde. Mais nous sommes attendus dans ce monde, nous sommes attendus pour transformer ce monde. Et donc c'est déjà un micro-combat intérieur. Auprès des confréries d'hommes que je peux accompagner, il y a une petite clé qui est le matin, quand on passe de cette situation horizontale où on est dans notre lit, et avant de mettre le pied par terre, on fait un grand signe de croix. De la même façon, la croix, eh bien, c'est cette rencontre entre, comme le transept, entre un bras vertical et un bras horizontal. De la même façon, quand on passe de cette situation horizontale à cette situation verticale, on se met sous le regard de Dieu. On se met sous le regard de Dieu, on dit « Seigneur, je ne suis qu'un serviteur, je ne peux rien faire sans toi ». Et puis moi, je propose aux hommes que j'accompagne de se mettre sous la protection de Saint-Joseph, qui est le protecteur universel de l'Église, et puis de dire une petite prière de protection à Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph, il parle au cœur des hommes, il parle au cœur des athlètes que nous sommes, il a parfois rien compris, mais il a eu un fiat de Saint-Joseph, et il est allé de l'avant. Ce n'est pas un homme bavard, c'est un homme qui a fait des choses. Qui a transformé le réel. On connaît qu'un seul mot, a priori, qu'aurait prononcé Saint-Joseph, c'est le mot de Jésus, quand il appelait son fils, et il disait certainement Jésus, il disait aussi certainement Marie, mais le reste, c'est pas du bavardage, c'est de l'action, c'est de la douceur, c'est de la persévérance, et puis c'est une forme d'abandon. Alors on va revenir un peu, on va replonger dans le combat, et je voudrais évoquer quand même ce qui est intéressant dans ce combat, c'est la puissance de la volonté. Dans la définition de la foi que donne saint Thomas d'Aquin, il évoque cet effort, cette adhésion de la volonté à une réalité. Il évoque cette intelligence éclairée par l'Esprit Saint. Il évoque cette convocation de la grâce, mais il parle beaucoup de cette adhésion de la volonté. Et je crois que dans notre société, on a pu un peu oublier cette force de la volonté. Un jour, il y avait un livre d'un éducateur chrétien, je crois qu'il s'appelait Monseigneur Baudrillard, et il parlait du fait de muscler sa volonté. Dans les ouvrages qu'on distribue dans les patronages, on parlait vraiment de cet effort de volonté. Il ne s'agit pas de faire de quelque chose de néo-pélagien, en particulier pendant les périodes de carême, mais il existe en chacun de nous cet espace de décision, qui est un lieu de combat. On est au cœur du combat mental, c'est le combat des pensées. Et la volonté, c'est ce qui va faire que dans ce combat des pensées, dans ce combat de ce sanctuaire de la conscience, eh bien, on va choisir. On va choisir parce que nous sommes libres. Le chrétien est un être libre. Et je crois que tous les grands champions, quand je faisais des petites formations auprès des jeunes, je leur disais, mais quel grand champion vous voulez, vous admirez et à qui vous voudriez ressembler? Et alors, ils me citaient des noms de champions et je leur disais, vous savez, ces jeunes-là, leur vie, elle est réglée. Elle est réglée, ils renoncent à énormément de choses parce qu'ils ont un objectif dans leur vie. Ils ont un objectif de grandeur, ils ont un objectif de donner du bonheur aux gens. Et donc, ils acceptent du renoncement. Ils acceptent du renoncement, ils acceptent une part de souffrance pour un bien supérieur. Et c'est là qu'on retrouve cette articulation entre ce bonheur et l'adversité de la souffrance et le combat de l'ascèse. Et un Mbappé, c'est quelqu'un qui, effectivement, je ne sais pas si on lui a volé sa jeunesse, mais c'est quelqu'un, il ne sort pas tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Il s'est renoncé certainement à beaucoup aux écrans. Il a une hygiène de vie. On voit aujourd'hui que sa façon de communiquer, il a un choix des mots. Il regarde les gens dans les yeux. C'est un homme debout. Vous voyez, c'est un homme debout. Et on voit souvent à ses fins de match, les 5-10 dernières minutes, il est complètement concentré sur cette volonté de marquer les derniers buts. Et là, on voit la mobilisation de la volonté qui vient tirer le corps et qui ensuite va permettre, ça c'est quelque chose d'intéressant aussi dans nos vies de chrétiens, et j'en reparlerai tout à l'heure, de rendre les autres meilleurs. C'est-à-dire que l'exemplarité donnée par Mbappé va élever le niveau de jeu et surtout va avoir un effet d'entraînement pour les autres. Et dans nos vies de chrétiens, si nous avons cet effort de volonté, et je parle aussi de la grâce, du souffle de l'Esprit Saint, si on est meilleur, on rendra les autres meilleurs autour de nous. Et je crois que c'est très important de le comprendre, en particulier pendant cette période de carême, qui est une période de tentation et de combat. Mais la tentation n'est pas le péché. C'est-à-dire que le Christ, il a plongé au milieu des tentations, mais il a pas succombé à ces tentations. Donc c'est normal d'avoir des tentations. Et il y a aussi des heureuses tentations, parce que la tentation, c'est le lieu, l'espace du choix. C'est comme un repli défensif d'un défenseur. Il y a un moment, il dira, est-ce que je fais l'effort pour aller courir après l'attaquant qui m'a dépassé, ou est-ce que je lâche parce que c'est trop tard? Et donc la tentation, c'est l'espace du choix où là, on pourra demander la grâce du Seigneur et puis on pourra faire cet effort de volonté pour dire non et puis pour faire l'effort qui va nous permettre d'aller vers le bien et non pas nous regarder le nombril dans le mal et de façon souvent un peu complaisante. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi dans le combat dans lequel on est embarqué, c'est que, et l'Évangile le dit, le péché, c'est pas ce qui rentre de l'extérieur. Vous savez, comme dans les cabinets de conseil en stratégie où on fait des matrices et où on parle des menaces extérieures, le péché avant tout, c'est ce qui sort de nous-mêmes. Donc ça sert à rien d'aller nous figer dans des postures victimaires ou paranoïaques en disant j'ai été assailli, ça a été trop fort, etc. Non. Le premier des maux, il est en nous. De la même façon que quand l'Église tombe, et aujourd'hui on voit à quel point l'Église elle est en souffrance, et Saint Vincent de Paul disait, les premiers adversaires de l'Église, ce sont paradoxalement les prêtres. C'est que les personnes qui doivent apporter la grâce, la sainteté, quand ils chutent, ils deviennent les premiers saboteurs, en quelque sorte, de la vocation à la sainteté. Et donc ça doit nous mettre dans une posture aussi d'humilité. D'humilité pour pas faire cocorico et pour pas dire, regardez, nous sommes des hommes de vertu, nous sommes des champions, nous sommes des héros, nous sommes des donneurs de leçons et nous allons vous expliquer comment faire. Voilà. Et il est important de trouver dans tout ce combat, dans cette joyeuse ascèse, ces moments de retrait, ces moments de silence. Et c'est toute la question, je crois, aujourd'hui. Je vous partage hein, deux petits conseils. C'est la question de l'oraison, hein, et de savoir dans le silence, et souvent tôt le matin, je le conseille, commencer à se mettre de façon désemparée, à l'écoute du Seigneur, à travers, en méditant la parole de Dieu qu'il nous donne, et puis aussi avec un petit moment de silence, ayons un petit carnet aussi à côté de nous, et même s'il y a un combat de pensée, parfois on est assailli dans l'adoration, dans l'oraison, on est assailli de pensée, mais il y a aussi des bonnes pensées, donc on peut noter parfaitement, on peut jouer libéré pendant ces moments-là. Et puis, c'est juste du temps qu'on a donné au Seigneur. Bernanos, vous savez, disait que le monde moderne était une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et le chrétien, c'est celui qui arrive à faire un peu le ménage dans ce bouillonnement et puis à se préserver ces phases de retrait, de silence, comme une équipe avant un moment très important va se mettre au vert. Vous savez, on dit souvent, avant un rendez-vous de Ligue des Champions, le PSG va se mettre, avant d'affronter le Bayern, comme la semaine prochaine, il va se mettre au vert. Dans un espace préservé, préservé de la pression des médias, préservé aussi des occupations familiales, pour se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et cette mise au vert, elle est importante le matin, c'est-à-dire qu'on se met un peu en retrait et où est l'essentiel de ma vie? Où est-ce que je vais mettre mon énergie et dans quel combat? Est-ce que je ne vais pas m'épuiser dans des combats alternatifs à droite, à gauche? Où est l'essentiel de ma vie? Où sont mes objectifs fondamentalement dans notre vie? Alors moi j'aime bien parler de combat hein, parce que c'est être dans le réel d'une société qui cherche aujourd'hui précisément un peu à oublier ce réel de l'opposition, des rapports de force et nous sommes traversés par des rapports de force et d'ailleurs c'est la vie. Mais il y a des tentations régulières de désespérer. Ça se manifeste beaucoup par la procrastination. Alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est quoi la procrastination? C'est ce qui nous conduit toujours à repousser au lendemain l'échéance où on doit poser des actes forts. Demain sera un autre jour, demain on rase gratis. C'est un moment où la volonté, elle est comme paralysée, et puis on veut éviter ce combat. Et un jour, alors moi je suis un grand champion de la procrastination, je me fais des to-do list, alors et je vois que les to-do list, c'est une feuille, deux feuilles, trois feuilles, et je gère comme ça tous les appels qui rentrent à droite à gauche, mais tout le travail de fond, j'ai tendance à l'oublier. Et un jour, un prêtre me disait, une des clés de la procrastination, c'est peut-être la confiance en soi, ou en tout cas de croire que on arrivera à faire des choses par notre propre force et ne pas nous laisser transformer suffisamment par la grâce et puis de demander au Seigneur de muscler notre volonté. Et donc, ça suppose d'arrêter peut-être d'éteindre nos téléphones portables au moment où on doit faire un travail important et donc nous concentrer sur ce qu'on a à faire sans avoir des choses parasites qui vont venir nous perturber. Donc c'est ça, cette heureuse adversité, cette heureuse ascèse, c'est de réussir à faire pleinement ce qu'on a à faire aujourd'hui, et puis de faire de nos tâches une succession de micro-chefs-d'œuvre, de petits chefs-d'œuvre, où on est complètement à ce qu'on a à faire. Simone Veil avait écrit un très beau texte sur l'attention. L'attention, c'est donner toute notre personne pour faire ces petits chefs-d'œuvre qui transforment le monde, et ne pas être des êtres en surface un peu dispersés, un peu écartelés, et finalement qui vivotent. On n'est pas là pour vivoter, on n'est pas là pour bourlinguer comme ça, de façon évanescente, on est là pour transformer vraiment le monde et le réel de façon, concrète. Et j'aime aussi ce petit témoignage je voyais un documentaire sur Mère Teresa qui disait que Mère Teresa envisageait, comme d'autres prêtres ont pu le témoigner, leur célibat religieux en disant, quand je suis avec toi, je suis totalement avec toi. Je n'ai pas d'autres préoccupations familiales, organisationnelles, logistiques, etc. Je suis complètement avec toi. Et c'est ce sens du célibat des religieux ou des prêtres de dire, ma relation de nuptialité, elle est avec toi totalement. Je te fais exister, je te fais grandir et je reçois aussi ta personne pour me faire grandir et pour me faire exister. C'est une forme de communion interpersonnelle qui ne va pas être, qui va être à 100%, qui va pas être dans une forme de retenue, dans une forme, alors peut-être d'instrumentalisation ou de, mais on est complètement donné à l'autre dans le temps qu'on passe avec lui. Et ça rejoint tout ce que j'ai pu partager avec vous sur ces ondes, sur ce geste juste, sur la juste distance, etc. Donc, il est important, je crois, chers amis auditeurs de Radio Maria, de se lever tôt, de se cogner à la réalité et puis d'avancer. Pas seul, on a toujours autour de nous des entraîneurs, on a toujours des personnes ressources, des supporters, de parler un peu de nos combats à nos amis. Et puis, on verra que quand on expose un peu nos vulnérabilités, on voit des personnes autour de nous qui nous disent j'ai un peu le même combat. On n'est pas seul. On n'est pas seul à être un peu planté par différentes choses, différentes addictions dans les pèlerinages de pères de famille. On voit aujourd'hui que beaucoup d'hommes passent beaucoup de temps, d'énergie sur leur téléphone portable, avec ce que ça suppose aussi d'addiction, de chute, en particulier par rapport à la pornographie. Comme dans un vestiaire sportif, ces marches, ces pèlerinages, eh bien on est dans un climat de confiance, on est dans un espace de gratuité, et puis on dit, voilà, je confie à votre prière, mes frères, mes vulnérabilités, mes souffrances. J'ai un enfant qui déconne, j'ai du mal à trouver mon bon positionnement entre mon boulot, ma vie familiale. Et puis, parce qu'on entend, on a un frère qui se met à genoux et qui dit, je me casse la gueule, je suis un peu dur. Et nous-mêmes, on va dire, je fais tomber les masques, j'arrête de jouer un personnage et puis je reconnais aussi ma fragilité et je te rejoins en mettant un pied à genoux. Et puis, ce sera le Seigneur qui va nous relever dans un même élan et puis qui va un peu nous restaurer. Et puis ensuite, on se remettra à genoux. Et puis la personne qu'on aura pu élever, c'est peut-être lui qui demain nous permettra de nous remettre debout. Et puis c'est ça notre vie de chrétien. C'est une succession d'agenouillements. On est debout, on célèbre la résurrection, on se recasse la gueule. Et puis on a l'aide de nos frères, on va aider nos amis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait où on va. Il faut vraiment se dire, et j'aime cette image de la bougie et du phare, c'est qu'il y a un grand phare qui est la vie éternelle, qui est aussi l'enseignement et le magistère de l'Église, qui, comme le disait le cardinal Aveline, l'Église, c'est ce message que Dieu donne à l'humanité. Et donc, il y a ce phare qui est là, qui nous montre la lumière. Et puis ensuite, nous, on avance à la bougie. Donc, pas après pas, on a cette petite lanterne, cette bougie. De temps en temps, elle est forte. De temps en temps, elle est un peu plus éteinte. Elle est plus capricieuse. Mais il y a toujours ce phare qui permet d'avancer. Et puis, ce phare, il voit loin. On est sur un temps très long. Et souvent, on a tendance à se surexciter sur le temps court. Dans cette adversité qui est un combat et qui doit être mener avec joie, on voit que très souvent on est un peu tétanisé, on a peur. On a peur parce qu'il y a des coups à prendre, on a peur aussi de s'exposer. Le Christ, il s'est exposé sur la croix, il s'est donné, il s'est livré. Et puis, nous, parfois, on a peur. Donc, on préfère un peu rester replié sur nous-mêmes. Et le pape, Saint Jean-Paul II, nous parlait très très tôt, nous a dit « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Et il y a un très bon film qui m'avait fait beaucoup rire, qui s'appelle « Le Grand Partage », qui évoquait, c'est une forme de dystopie, il imaginait un jour un grand froid qui viendrait tétaniser toutes les villes, et puis de façon un peu autoritaire, le gouvernement dit « écoutez, on va faire un ratio ». On va regarder le nombre de personnes qui habitent dans X appartements, et puis on va faire un ratio entre le nombre de mètres carrés que vous habitez et puis le nombre de personnes qui composent votre famille. Et puis d'autorité, on va demander à toutes les familles d'accueillir des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité, qui étaient dans la rue, qui étaient migrants, sans papier, etc. Et là, on voit à ce moment-là, dans ce film qui est très marrant, je vous le conseille, Le Grand Partage, on voit les réactions des différentes familles, en particulier des familles bobos de gauche très donneurs de leçons qui font tout pour éviter d'accueillir des réfugiés roumains. Et puis on voit la grande bourgeoise catholique qui veut faire de son mieux, mais maladroitement. Et dans cette phrase, il y a une petite pépite qui est prononcée par la fille de la grande bourgeoise qui regarde ses parents se déchirer entre la maman avec le grand cœur et puis le père qui fait des leçons de morale, mais qui maintenant fait tout pour saboter ce travail de générosité. Elle regarde ses parents, et puis un soir, alors qu'elle surprend sa maman en train de fumer une cigarette et de boire un verre de vin rouge dans la cuisine, elle dit « Mais finalement, le bourgeois, c'est qui ? Le bourgeois, c'est celui qui a peur. » Et le pape, aujourd'hui, il est venu nous désembourgeoiser, il est venu nous sortir un peu de notre confort, de nos canapés. Et je crois que ça suppose d'accepter de nous exposer, d'accepter de prendre des risques, d'accepter une forme d'inconfort. Benoît XVI nous disait, l'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. Et c'est comme un petit garçon, vous savez, qui veut apprendre, ou une petite fille, qui veut apprendre à faire du vélo. Au moment où on enlève les petites roues, et au moment où l'apprenti cycliste part explorer le monde, il avance, et s'il arrête d'avancer, il tombe, mais il faut qu'il tombe aussi pour qu'il avance. Et donc, il y a ce déséquilibre en permanence, ce risque de chute Mais le fait qu'on pédale, eh ben, fait qu'on avance. Et puis surtout, pour bien avancer, il ne faut pas avoir le regard trop latéral. Il faut suivre le but. Mais voilà, cette adversité nous fait grandir. Et pensez à cette image de, on est tous des petits enfants, comme disait Bernanos. Mais chaque jour, on se reconstruit. Et puis on avance. Comme en faisant du vélo, voilà. Et puis on a des coéquipiers qui sont là. Et puis parfois, vous savez, quand on regarde le Tour de France, on voit que ceux qui sont dans le peloton sont vraiment portés. Il y a des effets d'aspiration, on est porté vers les autres. Et puis parfois, il faut soutenir des personnes qui vont accélérer, qui vont prendre le sprint. Donc on est un peu, voilà, j'ai cette image du cycliste. Mais quand il s'arrête, il tombe. Alors il y a des moments où on a besoin de s'arrêter, des moments de repos. Mais là, on est peut-être porté par dans ces moments de retrait, de solitude, on est comme dans un peloton, on est porté par la prière des autres. Et puis il y a des moments où on va partir en échappée et on va s'exposer, on va prendre le vent en pleine face, on va prendre parfois des spectateurs qui vont venir nous déranger. Mais c'est l'ascension de notre vie. Je vais faire une petite pause musicale. Et puis, alors c'est une chanson, c'est de la variété française que j'ai redécouverte à travers un film qui s'appelle L'Innocence. C'est un film. Qui a reçu deux Césars, je crois, la semaine dernière, un film assez drôle. Et c'est Gérard Blanc qui chantait Une autre histoire. C'est très années 80, mais il dit on est là pour démarrer une autre histoire, on est là pour prendre un nouveau départ. Et le chrétien, c'est celui qui tombe, qui se relève. Et puis dans la chanson, vous verrez, il parle de J'ai appris à pardonner. Ça fait partie de ces morceaux de l'histoire française, du patrimoine musical français, et avec des beaux messages que les chrétiens doivent récupérer sans aucun état d'âme. C'est rythmé, il y a plusieurs rythmes dans la chanson, et je vous propose de la déguster avant de nous retrouver pour l'ultime phase de ce combat de l'ascèse et de cette joie dans l'oubli de soi, le don de soi pour un bien supérieur. Une autre histoire. Alors, vous savez, le hasard chez les chrétiens, il a un grand P, hein, il s'appelle la providence. Et donc, l'autre histoire, ben, c'est d'oublier les nuages qui nous cachent la vérité, on oublie les mirages. Et puis, il dit dans la chanson quelque chose d'assez beau, il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus peur d'aimer. Et cette période de carême, qui est une période de combat, et dans l'ascèse, on voit que finalement, tous les obstacles sont encore plus lourds, sont encore plus volumineux qu'avant. Le carême est une montée vers Pâques. On dit souvent belle montée vers Pâques, mais c'est aussi une descente. C'est une descente vers dans la connaissance de nous-mêmes. Et puis c'est une descente aussi dans l'humilité, dans l'apprentissage des vertus, dans l'apprentissage de notre petitesse pour nous laisser transformer par le Christ. Mais c'est un départ tous les jours. Et qu'est-ce qui fait que tous les jours il y a un nouveau départ? C'est fondamentalement la résurrection du Christ. C'est ce second souffle. Vous savez, je travaille sur le projet des Jeux Olympiques, la mobilisation de l'Église pour les Jeux Olympiques. Et donc, dans les réflexions, dans les pistes de réflexion, on va lancer bientôt le projet. Il y a cette réflexion autour du souffle. Et ce second souffle, c'est ce supplément d'âme, ce petit plus qui fait que les chrétiens peuvent jouer libérés par rapport aux autres, parce que on sait qu'il y a une vie après la mort, et on sait aussi que les biens sur terre, la reconnaissance sociale, l'argent ne sont aussi que des mirages. Donc ça permet de jouer davantage libérés. Et je crois que la liberté, je le dis souvent, c'est le bien le plus cher de tous les chrétiens. L'espace de liberté, c'est l'espace qui permet aux gestes de charité et d'amour de se déployer de façon les plus ajustées, les plus profondes possibles, sans contrainte, parce que la liberté, c'est tout notre être, c'est nous-mêmes, et l'amour reposera toujours, toujours sur la liberté, et rien n'est impossible à Dieu, sauf une chose qui est la contrainte. Donc on a tout, on est le sanctuaire de la conscience, et fondamentalement, et toujours, un espace de liberté dans lequel on pourra choisir le Seigneur et jusqu'à notre dernier souffle. Dans ce travail d'heureuse ascèse et de combat, je voudrais vous parler d'un art martial d'inspiration chrétienne qui est assez pratiqué dans les pays orientaux, qui s'appelle le systéma. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, tous ceux qui aiment les arts martiaux. Et tout repose sur l'apprentissage profond de la respiration et cette capacité physique et spirituelle à accueillir les coups davantage qu'à les esquiver. Et quand on fait du systéma, et j'en ai fait un peu, on est avant tout, et c'est tout ce travail d'apprentissage, dans l'accueil des coups et finalement dans l'apprentissage de la douleur. Comme de façon métaphorique, la douleur est au cœur de notre vie. Et donc, on va énormément travailler sur le fait de se laisser taper dessus. Donc, c'est parfois des coups un peu violents. Et au moment où le coup arrive sur nous, il y a une grande décharge de respiration, d'expiration, et en étant complètement souple et libéré pour évacuer cette douleur du coup. Finalement, on accepte une forme de douleur et en même temps, on neutralise notre imagination qui souvent nous tétanise. Et quand je parlais de jouer libéré, c'est ça, c'est que souvent les joueurs qui se blessent, ils se blessent parce que leur muscle était tétanisé. Et au moment où l'adversaire va nous donner un coup dans l'épaule, parfois ça va même mettre une gifle, enfin on travaille là-dessus en séance, eh bien au moment où la douleur va arriver, on va être complètement détendu et puis à travers une grande respiration, je ne vais pas vous le faire au micro parce que ça va créer des parasites, eh bien cette douleur va être évacuée. Et donc le coup, il est moins dans la philosophie du système, il est moins considéré comme un acte d'agression que comme une sorte de transfert d'énergie négative qui va venir glisser sur moi et qui va me permettre dans un second temps de rentrer en communion davantage qu'en confrontation nerveuse. Et la clé de cet art martial qui s'appelle le système, Systema, vous pourrez aller creuser. Il y a quelques années, il y a le Aletheia qui a fait tout un reportage très documenté sur la philosophie et sur l'esprit du système. La clé, c'est cette liberté intérieure et l'évacuation des peurs qui vont nous lester et qui vont nous paralyser. Ce qui est terrible aujourd'hui dans notre société, c'est toutes les personnes qui finalement vont avoir du mal à exprimer leur adversité parce qu'ils vont perdre confiance en eux. Et c'est le drame du chômage ou des personnes qui vont être très seules. Elles ont besoin de coéquipiers sportifs pour leur dire tu es meilleur que ton péché, tu es meilleur peut-être que tes difficultés. Et travaille sur toi et fais des petites choses. Et plus tu fais des choses, plus tu vas affronter aussi le réel. Tu vas reprendre confiance en toi. Et puis tu verras là où tu es, tu arriveras à transformer le monde. Je crois que c'est très très important d'accepter cet esprit de combat et puis cet esprit d'exposition à l'adversité. L'esprit de combat ne consiste pas tant à savoir que le péché ne me traverse qu'à vouloir qu'il ne sorte pas de moi. Et ça, c'est assez intéressant. Les sœurs de Bethléem nous parlaient beaucoup quand on était un jeune couple. On allait souvent dans les monastères. Elles nous parlaient beaucoup du mental blanc. De la même façon qu'on voit, on a souvent dans notre cœur des très belles inspirations pour faire le bien. Et souvent, ce bien, on ne le fait pas. Et on sait qu'on ne le fait pas, comme disait saint Paul. Eh bien, très souvent aussi, on a des mauvaises pensées qui se traduisent en paroles. Et on commence par faire de l'analyse et puis ça se termine par de la critique. Et je crois que c'est très important aussi dans ce travail d'ascèse, c'est de purifier ses paroles et puis de finaliser ses actes. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans nos missions d'éducateurs, parce qu'on est aussi des entraîneurs auprès des personnes qui nous sont confiées. Tout à l'heure, je parlais des personnes qui élevaient le niveau de jeu. C'est de dire dans nos missions d'éducateurs, et ça concerne des gens en entreprise, des personnes dans des associations, enfin, nous tous, quand on pose un acte, très souvent on dit bah, est-ce que cet acte, il y a parfois des zones grises dans notre vie, est-ce qu'il est vraiment moral? Et les gens disaient bah, est-ce que l'acte que je fais, je suis prêt à le signer et puis à le voir publié demain à la une d'un journal, du Monde, du Figaro, etc. Et si je ne veux pas le faire, ça veut dire quelque part que je ne suis pas bien avec ma conscience, parce qu'il y a une loi naturelle qui nous traverse. Et il y a un critère qui va permettre aussi de voir si un acte est bon ou mauvais. Je crois que c'est est-ce que cet acte-là, je suis prêt à en faire la promotion et à me faire éducateur pour le transmettre à quelqu'un que j'aime, qui pourrait être mon enfant. Et donc là, c'est un critère de discernement qui est vraiment intéressant, c'est que de façon naturelle, il y a des personnes qui nous sont confiées, ça peut être des enfants, ça peut être des élèves, etc. On est là pour les tirer vers le haut et doucherer, hein, c'est conduire hors d'eux, plus loin. Et est-ce que je suis prêt, ce comportement, cet acte, est-ce que je suis prêt à en faire la promotion auprès de ces jeunes disciples, alors que moi-même je suis dans une posture de maître. Et je voulais vous partager ça. C'est un petit critère de discernement qui m'a beaucoup éclairé pour avancer. Dans ce combat aussi de l'heureuse adversité, je crois qu'il est important de se mettre loin du bruit et puis d'avoir ce souci du temps long. Il y avait une phrase du maréchal Foch qui disait « J'avance doucement car je suis pressé. » Et là, on est au deuxième dimanche de carême. Il faut toujours avoir ce regard tendu vers la résurrection. Il est intéressant aussi de se plonger dans de comprendre la cohérence liturgique des Écritures qui nous sont données, de ne pas être seul. Et puis fondamentalement de rendre grâce pour les petits gestes d'ascèse ou de renoncement qu'on a à faire. Essayer peut-être d'avoir une confession plus fréquente, se réjouir parce qu'on arrive à renoncer 3 jours d'affilée à ne pas prendre de café. Moi, c'est mon cas, je suis un grand addict au café. Bon, j'essaie d'en boire un peu moins, mais de le faire de façon joyeuse. Je me souviens, j'avais pu participer à des programmes sur Internet un peu d'ascèse. Et alors c'était très intéressant, mais c'était un peu centré sur moi-même, sur ma performance d'ascèse. Et puis mes enfants me disaient, mais papa, t'es moins joyeux. Et il fallait pas prendre de sucre. Il fallait. Et je crois que même dans cette période de carême, on n'est pas là pour avoir des phases de carême, comme disait le pape François. Et donc il y a une phase aussi ultime de l'ascèse qui est, même si c'est difficile, même si on est tourmenté, eh bien c'est de sourire. Et on voit à quel point le sourire et la volonté de sourire va dilater notre corps et puis va aussi transférer de la joie chez les autres. Ce n'est pas une imprécation morale, on n'est pas là pour faire semblant de sourire, mais on va rechercher peut-être le matin, dans cette mise en retrait, cette mise au fer, cette ressource pour dire Seigneur, donne-moi ta joie, même si c'est compliqué, même s'il y a des choses qui sont difficiles, même s'il y a des combats qui sont compliqués, bah donne-moi ta joie. Et pour relativiser aussi les combats. Et puis je sais qu'au bout du chemin, il y a une espérance. Et puis j'avance doucement parce que je suis pressé. J'avance à la bougie, mais le phare, il est là et le phare, il bouge pas. Et je vais terminer cette petite chronique, hein, sur cette joyeuse ascèse par cette belle prière de Saint John Henry Newman. Le sport a été fondé par les Anglais, hein. Le mot sport, ça vient d'un vieux mot français, desport. Et il me semble que dans les temps qui nous sont donnés, c'est intéressant de se tourner vers des penseurs anglais ou anglo-saxons. Pourquoi je dis ça? Parce que les Anglais ont intériorisé aussi un catholicisme minoritaire. Et nous, longtemps en France, on pensait qu'on était un peu en position, comme on dit dans le business, on était en abus de position dominante. Et donc, on a pu faire de la maintenance. Et les Anglo-Saxons, ils ont accepté une posture un peu minoritaire. Les fidèles sont devenus, de fait, un peu dans leur esprit, quasi propriétaires des murs de leur église. Et donc, ils donnaient davantage. Il y avait une implication paroissiale, communautaire plus forte. Et ils étaient peut-être moins assistés que nous. Et je crois que dans les temps à venir, on a besoin un peu de comprendre cet état d'esprit, parce que ça va nous arriver, donc faudra rendre grâce pour notre patrimoine merveilleux, mais aussi nous laisser traverser par une audace créative et missionnaire, mais qui doit nous faire prendre conscience aussi d'une forme de précarité. Et c'est ce petit pas en avant. Donc je vais vous lire cette prière du cardinal Newman sur la ferveur. Et en particulier en cette période de carême, hein, qui est une période d'ascèse et de combat. Seigneur, donne-moi la ferveur, car en demandant la ferveur, je vous demande tout. Je vous demande la force effective, la constance et la persévérance. Je demande la mort de toute vue humaine et la simplicité d'intention de vous plaire. Je demande la foi, l'espérance et la charité. En demandant la ferveur, je demande d'être délivré de la crainte des hommes et du désir de leur louange. Je demande le don de la prière parce qu'il est si agréable. Je demande cette loyale perception du devoir qui résulte d'une ardente affection. Je demande tout à la fois la sainteté, la paix et la joie. Seigneur, en demandant la ferveur, je ne demande rien d'autre que vous, ô mon Dieu, qui vous êtes donné entièrement à nous. Vous êtes le feu vivant qui brûlait d'amour pour les hommes. Entrez en moi et allumez en moi le feu de votre amour. Amen.
Amen. Alors peut-être juste avant de vous laisser, un SMS qui est arrivé. Bonjour Arnaud, merci. Et pour ma part, c'est grâce, et je dis bien grâce à ma polio, que j'ai mené le bon combat athlétique, ayant été jusqu'au championnat régional par équipe. Et cet handicap m'a élevé, fortifié ma volonté aujourd'hui pour mener les combats physiques, spirituels aujourd'hui. Je confirme, et pour ceux et celles qui souffrent d'handicap, qu'ils prennent joyeusement leur croix et saute mouton, l'idée de la vie. Et c'est Florence qui nous envoie ce message.
Merci. Alors, vous pourrez dire à Florence que ce témoignage, dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui vont se préparer, il y a un grand projet de mobilisation de l'Église. Et en rencontrant les organisateurs des Jeux Olympiques, ils nous ont dit à quel point, en respectant vraiment cette identité, et j'allais dire cette singularité des religions, on était attendu autour des Paralympiques. On sait que les 45 000 bénévoles, ils seront là pour les Jeux Olympiques, mais autour des Jeux Paralympiques, il y en aura moins. Et c'est là-dessus que les chrétiens doivent, pour reprendre une expression de Peggy, s'intercaler. Toutes les personnes qui ont souffert dans leur corps et qui ont eu ce supplément d'âme, cette force d'aller au-delà de la souffrance. On est dans une société qui veut évacuer la souffrance et on voit avec le combat sur l'euthanasie et qui ont eu cette force, voilà, de d'aller au-delà. Et puis j'imagine que les victoires sportives ont dû créer une jubilation, une joie absolument ineffable et merveilleuse. On a besoin du témoignage de tous ces héros qui ont traversé ça, force d'âme. Et puis ensuite, si elle vient du ciel, c'est encore plus puissant. Donc Florence, restons connectés parce que vous êtes attendus pour témoigner. Merci en tout cas de votre écoute et puis au mois prochain. Hein.
Merci beaucoup Arnaud, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Athlète du Christ. Vous venez d'entendre Arnaud Boutéon pour cette émission. Aujourd'hui, nous parlions de Une heureuse ascèse. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.